Henri Bergson, La perception du changement, deuxième conférence. Vous m'avez prêté hier une attention si soutenue que vous ne devez pas vous étonner si je suis tenté d'en abuser aujourd'hui. Je vais vous demander de faire un effort violent pour écarter quelques-uns des schémas artificiels que nous interposons, à notre insu, entre la réalité et nous. Il s'agit de rompre avec certaines habitudes de penser et de percevoir qui sont devenues naturelles. Il faut revenir à la perception directe du changement et de la mobilité. Voici un premier résultat de cet effort. Nous nous représenterons tout changement, tout mouvement, comme absolument indivisible. Commençons par le mouvement. J'ai la main au point A. Je la transporte au point B, parcourant l'intervalle AB. Je dis que ce mouvement de A en B est chose simple. Mais c'est de quoi chacun de nous a la sensation immédiate. Sans doute, pendant que nous portons notre main de A en B, nous nous disons que nous pourrions l'arrêter en un point intermédiaire. Mais nous n'aurions plus affaire alors au même mouvement. Il n'y aurait plus un mouvement unique de A en B, il y aurait par hypothèse deux mouvements avec un intervalle d'arrêt, ni du dedans par le sens musculaire, ni du dehors par la vue, nous n'aurions encore la même perception. Si nous laissons notre mouvement de A en B tel qu'il est, nous le sentons indivisé, et nous devons le déclarer indivisible. Il est vrai que lorsque je regarde ma main aller de A en B et décrivant l'intervalle AB, je me dis « L'intervalle AB peut se diviser en autant de parties que je le veux. Donc le mouvement de A en B peut se diviser en autant de parties qu'il me plaît, puisque ce mouvement s'applique sur cet intervalle. » Ou bien encore, à chaque instant de son trajet, le mobile passe sur un certain point. Donc on peut distinguer dans le mouvement autant d'étapes qu'on voudra. Donc le mouvement est infiniment divisible. Mais réfléchissons-y un instant. Comment le mouvement pourrait-il s'appliquer sur l'espace qu'il parcourt? Comment du mouvement coïnciderait-il avec de l'immobile? Comment l'objet qui se meut serait-il en un point de son trajet? Il y passe, ou en d'autres termes, il pourrait y être. Il y serait s'il s'y arrêtait. Mais s'il s'y arrêtait, ce n'est plus au même mouvement que nous aurions affaire. C'est toujours d'un seul bond qu'un trajet est parcouru. Quand il n'y a pas d'arrêt sur le trajet. Le bond peut durer quelques secondes ou des jours, des mois, des années, peu importe. Du moment qu'il est unique, il est indécomposable. Seulement, une fois le trajet effectué, comme la trajectoire est espace, et que l'espace est indéfiniment divisible, nous nous figurons que le mouvement lui-même est divisible indéfiniment. Nous aimons à nous le figurer parce que dans un mouvement, ce n'est pas le changement de position qui nous intéresse, ce sont les positions elles-mêmes. Celles que le mobile a quittées, celles qu'il prendra, celles qu'il prendrait s'il s'arrêtait en route. Nous avons besoin d'immobilité. Et plus nous réussirons à nous représenter le mouvement comme coïncidant avec les immobilités des points de l'espace qu'il parcourt, mieux nous croirons le comprendre. À vrai dire, il n'y a jamais d'immobilité véritable, si nous entendons par là une absence de mouvement. Le mouvement est la réalité même. Et ce que nous appelons immobilité est un certain état de choses analogue à ce qui se produit quand deux trains marchent avec la même vitesse dans le même sens, sur deux voies parallèles. Chacun des deux trains est alors immobile pour les voyageurs assis dans l'autre. Mais une situation de ce genre, qui est en somme exceptionnelle, nous semble être la situation régulière et normale, parce que c'est elle qui nous permet d'agir sur les choses et qui nous permet aussi d'agir sur nous. Les voyageurs des deux trains ne peuvent se tendre la main par la portière et causer ensemble que s'ils sont immobiles, c'est-à-dire s'ils marchent dans le même sens avec la même vitesse. L'immobilité étant ce dont notre action a besoin, nous l'érigeons en réalité. Nous en faisons un absolu et nous voyons dans le mouvement quelque chose qui s'y surajoute. Rien de plus légitime dans la pratique. Mais lorsque nous transportons cette habitude d'esprit dans le domaine de la spéculation, nous méconnaissons la réalité vraie. Nous créons de gaieté de cœur des problèmes insolubles. Nous fermons les yeux à ce qu'il y a de plus vivant dans le réel. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les arguments de Zénon d'Élée. Tous impliquent la confusion du mouvement avec l'espace parcouru, ou tout au moins la conviction qu'on peut traiter le mouvement comme on traite l'espace, le diviser sans tenir compte de ses articulations. Achille, nous dit-on, n'atteindra jamais la tortue qu'il poursuit, car lorsqu'il arrivera au point où était la tortue, celle-ci aura eu le temps de marcher, et ainsi de suite indéfiniment. Les philosophes ont réfuté cet argument de bien des manières, et de manière si différente que chacune de ces réfutations enlève aux autres le droit de se croire définitive. Il y aurait eu pourtant un moyen très simple de trancher la difficulté. C'eût été d'interroger Achille. Car puisqu'Achille finit par rejoindre la tortue, et même par la dépasser, il doit savoir mieux que personne comment il s'y prend. Le philosophe ancien qui démontrait la possibilité du mouvement en marchant était dans le vrai. Son seul tort fut de faire le geste, sans y joindre un commentaire. Demandons alors à Achille de commenter sa course. Voici sans doute ce qu'il nous répondra. Zénon veut que je me rende du point où je suis au point que la tortue a quitté, de celui-ci au point qu'elle a quitté encore, etc. C'est ainsi qu'il procède pour me faire courir, mais moi, pour courir, je m'y prends autrement. Je fais un premier pas, puis un second, et ainsi de suite. Finalement, après un certain nombre de pas, j'en fais un dernier, par lequel j'enjambe la tortue, j'accomplis ainsi une série d'actes indivisibles. Ma course est la série de ces actes. Autant elle comprend de pas, autant vous pouvez y distinguer de parties. Mais vous n'avez pas le droit de la désarticuler selon une autre loi, ni de la supposer articulée d'une autre manière. Procéder comme le fait Zénon, c'est admettre que la course peut être décomposée arbitrairement comme l'espace parcouru. C'est croire que le trajet s'applique réellement comme la trajectoire. C'est faire coïncider, et par conséquent confondre, ensemble mouvement et immobilité. Mais en cela consiste précisément notre méthode habituelle. Nous raisonnons sur le mouvement comme s'il était fait d'immobilité. Et quand nous le regardons, c'est avec des immobilités que nous le reconstituons. Le mouvement est pour nous une position, puis une nouvelle position, et ainsi de suite indéfiniment. Nous nous disons bien, il est vrai qu'il doit y avoir autre chose et que d'une position à une position, il y a le passage par lequel se franchit l'intervalle. Mais dès que nous fixons notre attention sur ce passage, vite, nous en faisons une série de positions, quitte à reconnaître qu'entre deux positions successives, il faut bien supposer un passage. Ce passage, nous reculons indéfiniment le moment de l'envisager. Nous admettons qu'il existe, nous lui donnons un nom, cela nous suffit. Une fois en règle de ce côté, nous nous tournons vers les positions et nous préférons n'avoir affaire qu'à elles. Nous avons instinctivement peur des difficultés que susciterait à notre pensée la vision du mouvement dans ce qu'il a de mouvant. Et nous avons raison du moment que le mouvement a été chargé par nous d'immobilité. Si le mouvement n'est pas tout, il n'est rien. Et si nous avons d'abord posé que l'immobilité peut être une réalité, le mouvement glissera entre nos doigts quand nous croirons le tenir. J'ai parlé du mouvement, mais j'en dirai autant de n'importe quel changement. Tout changement réel est un changement indivisible. Nous aimons à le traiter comme une série d'états distincts qui s'aligneraient en quelque sorte dans le temps. C'est naturel encore. Si le changement est continuel en nous, et continuel aussi dans les choses, en revanche, pour le changement ininterrompu que chacun de nous appelle « moi », puisse agir sur le changement ininterrompu que nous appelons « une chose », il faut que ces deux changements se trouvent, l'un par rapport à l'autre, dans une situation analogue à celle de deux trains dont nous parlions tout à l'heure. Nous disons par exemple qu'un objet change de couleur, et que le changement consiste ici dans une série de teintes qui seraient les éléments constitutifs du changement et qui, elles, ne changeraient pas. Mais d'abord, ce qui existe objectivement de chaque teinte, c'est une oscillation infiniment rapide, c'est du changement. Et d'autre part, la perception que nous en avons, dans ce qu'elle a de subjectif, n'est qu'un aspect isolé, abstrait de l'état général de notre personne, lequel change globalement sans cesse et fait participer à notre changement cette perception dite invariable. En fait, il n'y a pas de perception qui ne se modifie à chaque instant. De sorte que la couleur, en dehors de nous, est la mobilité même, et que notre propre personne est mobilité encore. Mais tout le mécanisme de notre perception des choses, comme celui de notre action sur les choses, a été réglé de manière à amener ici, entre la mobilité externe et la mobilité intérieure, une situation comparable à celle de nos deux trains, plus compliquée sans doute, mais du même genre. Quand les deux changements, celui de l'objet et celui du sujet, ont lieu dans ces conditions particulières, ils suscitent l'apparence particulière que nous appelons un état. Et une fois en possession d'état, notre esprit recompose avec eux le changement. Rien de plus naturel, je le répète. Le morcelage du changement en état nous met à même d'agir sur les choses. Et il est pratiquement utile de s'intéresser aux états plutôt qu'au changement lui-même. Mais ce qui favorise ici l'action serait mortel à la spéculation. Représentez-vous un changement comme réellement composé d'états. Du même coup, vous faites surgir des problèmes métaphysiques insolubles. Ils ne portent que sur des apparences. Vous avez fermé les yeux à la réalité vraie. Je n'insisterai pas davantage. Que chacun de nous fasse l'expérience. Qu'il se donne la vision directe d'un changement, d'un mouvement. Il aura un sentiment d'absolue indivisibilité. J'arrive alors au second point, qui est très voisin du premier. Il y a des changements, mais il n'y a pas sous le changement des choses qui changent. Le changement n'a pas besoin d'un support. Il y a des mouvements, mais il n'y a pas d'objet inerte, invariable, qui se meuve. Le mouvement n'implique pas un mobile. Note. Nous reproduisons ces vues sous la forme même que nous leur donnâmes dans notre conférence, sans nous dissimuler qu'elles susciteront probablement les mêmes malentendus qu'alors, malgré les applications et les explications que nous avons présentées dans des travaux ultérieurs. De ce qu'un être est action, peut-on conclure que son existence soit évanouissante? Que dit-on de plus que nous, quand on le fait résider dans un substratum qui n'a rien de déterminé puisque par hypothèse, sa détermination est par conséquent son essence et cette action même. Une existence ainsi conçue cesse-t-elle jamais d'être présente à elle-même, la durée réelle impliquant la persistance du passé dans le présent et la continuité indivisible d'un déroulement? Tous les malentendus proviennent de ce qu'on a abordé et les applications de notre conception de la durée réelle avec l'idée qu'on se faisait du temps spatialisé. Fin de la note. On a de la peine à se représenter ainsi les choses, parce que le sens par excellence est celui de la vue, et que l'œil a pris l'habitude de découper dans l'ensemble du champ visuel des figures relativement invariables qui sont censées alors se déplacer sans se déformer. Le mouvement se surajouterait au mobile comme un accident. Il est en effet utile d'avoir affaire tous les jours à des objets stables et en quelque sorte responsables auxquels on s'adresse comme à des personnes. Le sens de la vue s'arrange pour prendre les choses de ce biais. Éclaireur du toucher, il prépare notre action sur le monde extérieur. Mais déjà nous aurons moins de peine à percevoir le mouvement et le changement comme des réalités indépendantes, si nous nous adressons au sens de l'ouïe. Écoutons une mélodie en nous laissant bercer par elle. N'avons-nous pas la perception nette d'un mouvement qui n'est pas attaché à un mobile, d'un changement sans rien qui change? Ce changement se suffit. Il est la chose même. Il a beau prendre du temps, il est indivisible. Si la mélodie s'arrêtait plus tôt, ce ne serait plus la même masse sonore, c'en serait une autre également indivisible. Sans doute, nous avons une tendance à la diviser et à nous représenter, au lieu de la continuité ininterrompue de la mélodie, une juxtaposition de notes distinctes. Mais pourquoi ? Parce que nous pensons à la série discontinue d'efforts que nous ferions pour recomposer approximativement le son entendu en chantant nous-mêmes. Et aussi, parce que notre perception auditive a pris l'habitude de s'imprégner d'images visuelles. Nous écoutons alors la mélodie à travers la vision qu'on aurait un chef d'orchestre regardant sa partition. Nous nous représentons des notes juxtaposées à des notes sur une feuille de papier imaginaire. Nous pensons à un clavier sur lequel on joue, à l'archet qui va et qui vient, aux musiciens dont chacun donne sa partie à côté des autres. Faisons abstraction de ces images spatiales. Il reste le changement pur, se suffisant à lui-même, nullement divisé, nullement attaché à une chose qui change. Revenons alors à la vue. En fixant davantage notre attention, nous nous apercevons qu'ici même le mouvement n'exige pas un véhicule, ni le changement une substance, au sens courant du mot. Déjà la science physique nous suggère cette vision des choses matérielles. Plus elle progresse, plus elle résout la matière en action qui chemine à travers l'espace, au mouvement qui court ça et là comme des frissons, de sorte que la mobilité devient la réalité même. Sans doute, la science commence par assigner à cette mobilité un support. Mais à mesure qu'elle avance, le support recule. Les masses se pulvérisent en molécules, les molécules en atomes, les atomes en électrons ou corpuscules. Finalement, le support assigné au mouvement semble bien n'être qu'un schéma commode, simple concession du savant aux habitudes de notre imagination visuelle. Mais point n'est besoin d'aller aussi loin. Qu'est-ce que le mobile auquel notre œil attache le mouvement, comme à un véhicule ? Simplement une tache colorée, dont nous savons bien qu'elle se réduit en elle-même à une série d'oscillations extrêmement rapides. Ce prétendu mouvement d'une chose n'est en réalité qu'un mouvement de mouvement. Mais nulle part, la substantialité du changement n'est aussi visible, aussi palpable, que dans le domaine de la vie intérieure. Les difficultés et contradictions de tout genre auxquelles ont abouti les théories de la personnalité viennent de ce qu'on sait représenter d'une part une série d'états psychologiques distincts, chacun invariable, qui produiraient les variations du moi par leur succession même, et d'autre part un moi non moins invariable qui leur servirait de support. Comment cette unité et cette multiplicité pourraient-elles se rejoindre ? Comment, ne durant ni l'une ni l'autre ? La première parce que le changement est quelque chose qui s'y surajoute. La seconde parce qu'elle est faite d'éléments qui ne changent pas. Pourrait-elle constituer un moi qui dure ? Mais la vérité est qu'il n'y a ni substratum rigide immuable, ni des états distincts qui y passent comme des acteurs sur une scène. Il y a simplement la mélodie continue de notre vie intérieure, mélodie qui se poursuit et se poursuivra indivisible du commencement à la fin de notre existence, consciente. Notre personnalité est cela même. C'est justement cette continuité indivisible de changement qui constitue la durée vraie. Je ne puis entrer ici dans l'examen approfondi d'une question que j'ai traitée ailleurs. Je me bornerai donc à dire, pour répondre à ceux qui voient dans cette durée réelle je ne sais quoi d'ineffable et de mystérieux, quelle est la chose la plus claire du monde. La durée réelle est ce que l'on a toujours appelé le temps. Mais le temps perçu comme indivisible, que le temps implique la succession, je n'en disconviens pas. Mais que la succession se présente d'abord à notre conscience, comme la distinction d'un avant et d'un après juxtaposé, c'est ce que je ne saurais accorder. Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir. Une impression, aussi éloignée que possible de celle de la simultanéité, et pourtant, c'est la continuité même de la mélodie et l'impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette impression. Si nous la découpons en notes distinctes, en autant d'avant et d'après qu'il nous plaît, c'est que nous y mêlons des images spatiales et que nous imprégnons la succession de simultanéité. Dans l'espace, et dans l'espace seulement, il y a distinction nette de parties extérieures les unes aux autres. Je reconnais d'ailleurs que c'est dans le temps, spatialisé, que nous nous plaçons d'ordinaire. Nous n'avons aucun intérêt à écouter le bourdonnement ininterrompu de la vie profonde, et pourtant la durée réelle est là. C'est grâce à elle que prennent place dans un seul et même temps les changements plus ou moins longs auxquels nous assistons en nous et dans le monde extérieur. Ainsi, qu'il s'agisse du dedans ou du dehors, de nous ou des choses, la réalité est la mobilité même. C'est ce que j'exprimais en disant qu'il y a du changement, mais qu'il n'y a pas de choses qui changent. Devant le spectacle de cette mobilité universelle, quelques-uns d'entre nous seront pris de vertige. Ils sont habitués à la terre ferme, ils ne peuvent se faire aux roulis et aux tangages. Il leur faut des points fixes auxquels attacher la pensée et l'existence. Ils estiment que si tout passe, rien n'existe, et que si la réalité est mobilité, elle n'est déjà plus au moment où on la pense, elle échappe à la pensée. Le monde matériel, disent-ils, va se dissoudre, et l'esprit se noyer dans le flux torrentieux des choses. Qu'ils se rassurent, le changement, s'ils consentent à le regarder directement, sans voile interposée, leur apparaîtra bien vite, comme ce qu'il peut y avoir au monde de plus substantiel et de plus durable. Sa solidité est infiniment supérieure à celle d'une fixité, qui n'est qu'un arrangement éphémère entre des mobilités. J'arrive ici en effet au troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention. C'est que, si le changement est réel, et même constitutif de la réalité, nous devons envisager le passé tout autrement que nous avons été habitués à le faire par la philosophie et par le langage. Nous inclinons à nous représenter notre passé comme de l'inexistant. Et les philosophes encouragent, chez nous, cette tendance naturelle. Pour eux et pour nous, le présent seul existe par lui-même. Si quelque chose survit du passé, ce ne peut être que par un secours que le présent lui prête, par une charité que le présent lui fait. Enfin, pour sortir des métaphores, par l'intervention d'une certaine fonction particulière qui s'appelle la mémoire, et dont le rôle serait de conserver exceptionnellement telle ou telle partie du passé en les emmagasinant dans une espèce de boîte. Erreur profonde, erreur utile, je le veux bien, nécessaire peut-être à l'action, mais mortelle à la spéculation. On y trouverait, enfermé « in a nutshell », comme vous dites, la plupart des illusions qui peuvent vicier la pensée philosophique. Réfléchissons en effet à ce présent, qui serait seul existant. Qu'est-ce au juste que le présent? S'il s'agit de l'instant actuel, je veux dire d'un instant mathématique, qui serait autant ce que le point mathématique est à la ligne, il est clair qu'un pareil instant est une pure abstraction, une vue de l'esprit. Il ne saurait avoir d'existence réelle. Jamais, avec de pareils instants, vous ne feriez du temps, pas plus qu'avec des points mathématiques, vous ne composeriez une ligne. Supposez même qu'il existe. Comment y aurait-il un instant antérieur à celui-là? Les deux instants ne pourraient être séparés par un intervalle de temps, puisque par hypothèse, vous réduisez le temps à une juxtaposition d'instants. Donc, ils ne seraient séparés par rien, et par conséquent, ils ne feraient qu'un. Deux points mathématiques qui se douchent se confondent. Mais laissons de côté ces subtilités. Notre conscience nous dit que, lorsque nous parlons de notre présent, c'est à un certain intervalle de durée que nous pensons. Quelle durée? Impossible de la fixer exactement. C'est quelque chose d'assez flottant. Mon présent, en ce moment, est la phrase que je suis occupé à prononcer. Mais il en est ainsi parce qu'il me plaît de limiter à ma phrase le champ de mon attention. Cette attention est chose qui peut s'allonger, se raccourcir, comme l'intervalle entre les deux pointes d'un compas. Pour le moment, les pointes s'écartent juste assez pour aller du commencement à la fin de ma phrase. Mais s'il me prenait envie de les éloigner davantage, mon présent embrasserait, outre ma dernière phrase, celle qui la précédait. Il m'aurait suffi d'adopter une autre ponctuation. Allons plus loin. Une attention qui serait indéfiniment extensible tiendrait sous le regard avec la phrase précédente. Toutes les phrases antérieures de la leçon, et les événements qui ont précédé la leçon, et une portion aussi grande qu'on voudra de ce que nous appelons notre passé. La distinction que nous faisons entre notre présent et notre passé est donc, sinon arbitraire, du moins relative à l'étendue du champ que peut embrasser notre attention à la vie. le présent, occupe juste autant de place que cet effort. Dès que cette action particulière lâche quelque chose de ce qu'elle tenait sous son regard, aussitôt, ce qu'elle abandonne du présent devient ipso facto du passé. En un mot, notre présent tombe dans le passé quand nous cessons de lui attribuer un intérêt actuel. Il en est du présent des individus comme de celui des nations. Un événement appartient au passé et il entre dans l'histoire quand il n'intéresse plus directement les politiques du jour et peut être négligé sans que les affaires s'en ressentent. Tant que notre action se fait sentir, il adhère à la vie de la nation et lui demeure présent. Dès lors, rien ne nous empêche de reporter aussi loin que possible, en arrière, la ligne de séparation entre notre présent et notre passé. Une attention à la vie qui serait suffisamment puissante et suffisamment dégagée de tout intérêt pratique embrasserait ainsi dans un présent indivisé l'histoire passée tout entière de la personne consciente. Non pas comme de l'instantané, non pas comme un ensemble de parties simultanées, mais comme du continuellement présent qui serait aussi du continuellement mouvant. Telle, je le répète, la mélodie qu'on perçoit indivisible et qui constitue d'un bout à l'autre, si l'on veut étendre le sens du mot, un perpétuel présent, quoique cette perpétuité n'ait rien de commun avec l'immutabilité, ni cette indivisibilité avec l'instantanéité. Il s'agit d'un présent qui dure. Ce n'est pas là une hypothèse. Il arrive, dans des cas exceptionnels, que l'attention renonce tout à coup à l'intérêt qu'elle prenait à la vie. Aussitôt, comme par enchantement, le passé redevient présent. Chez des personnes qui voient surgir devant elles, à l'improviste, la menace d'une mort soudaine, chez l'alpiniste qui glisse au fond d'un précipice, chez des noyés et chez des pendus, il semble qu'une conversion brusque de l'attention puisse se produire. Quelque chose comme un changement d'orientation de la conscience, qui jusqu'alors, tournée vers l'avenir et absorbée par les nécessités de l'action, subitement, s'en désintéresse. Cela suffit pour que mille et mille détails oubliés soient remémorés, pour que l'histoire entière de la personne se déroule devant elle en un mouvant panorama. La mémoire n'a donc pas besoin d'explication, ou plutôt, il n'y a pas de faculté spéciale dont le rôle soit de retenir du passé pour le verser dans le présent. Le passé se conserve de lui-même, automatiquement. Certes, si nous fermons les yeux à l'indivisibilité du changement, au fait que notre plus loin passé adhère à notre présent et constitue avec lui un seul et même changement ininterrompu, il nous semble que le passé est normalement de l'aboli, et que la conservation du passé a quelque chose d'extraordinaire. Nous nous croyons alors obligés d'imaginer un appareil dont la fonction serait d'enregistrer les parties du passé susceptibles de réapparaître à la conscience. Mais si nous tenons compte de la continuité de la vie intérieure et par conséquent de son indivisibilité, ce n'est plus la conversation du passé qu'il s'agira d'expliquer, c'est au contraire son apparente abolition. Nous n'aurons plus à rendre compte du souvenir, mais de l'oubli. L'explication s'en trouvera d'ailleurs dans la structure du cerveau. La nature a inventé un mécanisme pour canaliser notre attention dans la direction de l'avenir, pour la détourner du passé. Je veux dire de cette partie de notre histoire qui n'intéresse pas notre action présente. Pour lui amener tout au plus, sous forme de souvenir, telle ou telle simplification de l'expérience antérieure, destinée à compléter l'expérience du moment. En cela consiste ici la fonction du cerveau. Nous ne pouvons aborder la discussion de la théorie qui veut que le cerveau serve à la conservation du passé, qu'il emmagasine des souvenirs comme autant de clichés photographiques dont nous tirerions ensuite des épreuves comme autant de phonogrammes destinés à redevenir des sons. Nous avons examiné la thèse ailleurs. Cette doctrine a été inspirée en grande partie par une certaine métaphysique dont la psychologie et la psychophysiologie contemporaine sont imprégnées et qu'on accepte naturellement. De là son apparente clarté. Mais, à mesure qu'on la considère de plus près, on y voit s'accumuler les difficultés et les impossibilités. Prenons le cas le plus favorable à la thèse. le cas d'un objet matériel faisant impression sur l'œil et laissant dans l'esprit un souvenir visuel. Que pourra bien être ce souvenir s'il résulte véritablement de la fixation dans le cerveau de l'impression reçue par l'œil? Pour peu que l'objet ait remué, ou que l'œil ait remué, il y a eu non pas une image, mais 10, 100, 1000 images. Autant et plus que sur le film d'un cinématographe, pour peu que l'objet ait été considéré un certain temps ou revu à des moments divers, ce sont des millions d'images différentes de cet objet. Et nous avons pris le cas le plus simple. Supposons toutes ces images emmagasinées. À quoi serviront-elles? Quelle est celle que nous utiliserons? Admettons même que nous ayons nos raisons pour en choisir une. Pourquoi et comment la rejetterons-nous dans le passé quand nous l'apercevrons? Passons encore sur ces difficultés. Comment expliquera-t-on les maladies de la mémoire? Dans celles de ces maladies qui correspondent à des lésions locales du cerveau, c'est-à-dire dans les aphasies, la lésion psychologique consiste moins dans une abolition des souvenirs que dans une impuissance à les rappeler. Un effort, une émotion peuvent ramener brusquement à la conscience des mots qu'on croyait définitivement perdus. Ces faits, avec beaucoup d'autres, concourent à prouver que le cerveau sert ici à choisir dans le passé, à le diminuer, à le simplifier, à l'utiliser, mais non pas à le conserver. Nous n'aurions aucune peine à envisager les choses de ce biais si nous n'avions contracté l'habitude de croire que le passé est aboli. Alors, sa réapparition partielle nous fait l'effet d'un événement extraordinaire qui réclame une explication. Et c'est pourquoi nous imaginons, ça et là, dans le cerveau, des boîtes à souvenirs qui conserveraient des fragments de passé. Le cerveau se conservant d'ailleurs lui-même, comme si ce n'était pas reculer la difficulté et simplement ajourner le problème. Comme si, en posant que la matière cérébrale se conserve à travers le temps, ou plus généralement que toute matière dure, on ne lui attribuait pas précisément la mémoire qu'on prétend expliquer par elle. Quoi que nous fassions, même si nous supposons que le cerveau emmagasine des souvenirs, nous n'échappons pas à la conclusion que le passé peut se conserver lui-même automatiquement. Non pas seulement notre passé à nous, mais aussi le passé de n'importe quel changement, pourvu toutefois qu'il s'agisse d'un changement unique et par là même indivisible. La conservation du passé dans le présent n'est pas autre chose que l'indivisibilité du changement. Il est vrai que, pour les changements qui s'accomplissent au dehors, nous ne savons presque jamais si nous avons affaire à un changement unique ou à un composé de plusieurs mouvements entre lesquels s'intercalent des arrêts. L'arrêt n'étant, d'ailleurs, jamais que le relatif. Il faudrait que nous fussions intérieurs aux êtres et aux choses, comme nous le sommes à nous-mêmes, pour que nous puissions nous prononcer sur ce point. Il suffit de s'être convaincu une fois pour toutes que la réalité est changement, que le changement est indivisible, et que, dans un changement indivisible, le passé fait corps avec le présent. Pénétrons-nous de cette vérité, et nous verrons fondre et s'évaporer bon nombre d'énigmes philosophiques. Certains grands problèmes, comme celui de la substance, du changement et de leur rapport, cesseront de se poser. Toutes les difficultés soulevées de ces points, difficultés qui ont fait reculer peu à peu la substance jusque dans le domaine de l'inconnaissable, venant de ce que nous fermons les yeux à l'indivisibilité du changement, si le changement, qui est évidemment constitutif de toute notre expérience, est la chose fuyante dont la plupart des philosophes ont parlé, si l'on n'y voit qu'une poussière d'états qui remplace des états, force est bien de rétablir la continuité entre ces états par un lien artificiel. Mais ce substrat, immobile de la mobilité, ne pouvant posséder aucun des attributs que nous connaissons, puisque tous sont des changements, recule à mesure que nous essayons d'en approcher. Il est aussi insaisissable que le fantôme de changement qu'il était appelé à fixer. Faisons effort, au contraire, pour apercevoir le changement tel qu'il est, dans son indivisibilité naturelle. Nous voyons qu'il est la substance même des choses, et ni le mouvement ne nous apparaît plus sous la forme évanouissante qui le rendait insaisissable à la pensée, ni la substance avec l'immutabilité qui la rendait inaccessible à notre expérience. L'instabilité radicale et l'immutabilité absolue ne sont alors que des vues abstraites, prises du dehors sur la continuité du changement réel, abstraction que l'esprit hypostasie ensuite en états multiples, d'un côté en chose ou substance, de l'autre. Les difficultés soulevées par les anciens autour de la question du mouvement et par les modernes autour de la question de la substance s'évanouissent. Celle-ci, parce que la substance est mouvement et changement, celle-là, parce que le mouvement et le changement sont substantiels. En même temps que des obscurités théoriques se dissipent, on entrevoit la solution possible de plus d'un problème réputé insoluble. Les discussions relatives au libre arbitre prendraient fin si nous nous apercevions nous-mêmes là où nous sommes réellement dans une durée concrète où l'idée de détermination nécessaire perd toute espèce de signification, puisque le passé y fait corps avec le présent et crée sans cesse avec lui, ne fût-ce que par le fait de s'y ajouter, quelque chose d'absolument nouveau. Et la relation de l'homme à l'univers deviendrait susceptible d'un approfondissement graduel si nous tenions compte de la vraie nature des états, des qualités, enfin de tout ce qui se présente à nous avec l'apparence de la stabilité. En pareil cas, l'objet et le sujet doivent être vis-à-vis l'un de l'autre dans une situation analogue à celle de deux trains dont nous parlions au début. C'est un certain réglage de la mobilité sur la mobilité qui produit l'effet de l'immobilité. Pénétrons-nous alors de cette idée, ne perdons jamais de vue la relation particulière de l'objet au sujet qui se traduit par une vision statique des choses. Tout ce que l'expérience nous apprendra de l'un accroîtra la connaissance de ce que nous avions de l'autre, et la lumière que celui-ci reçoit pourra par réflexion éclairer celui-là à son tour. Mais comme je l'annonçais au début, la spéculation pure ne sera pas seule à bénéficier de cette vision de l'universel devenir. Nous pourrions la faire pénétrer dans notre vie de tous les jours et, par elle, obtenir de la philosophie des satisfactions analogues à celles de l'art, mais plus fréquentes, plus continues, plus accessibles aussi au commun des hommes. L'art nous fait sans doute découvrir dans les choses plus de qualité et plus de nuances que nous n'en apercevons naturellement. Il dilate notre perception, mais en surface plutôt qu'en profondeur. Il enrichit notre présent, mais il ne nous fait guère dépasser le présent. Par la philosophie, nous pouvons nous habituer à ne jamais isoler le présent du passé qu'il traîne avec lui. Grâce à elle, toute chose acquiert de la profondeur. Plus que de la profondeur, quelque chose comme une quatrième dimension qui permet aux perceptions antérieures de rester solidaires des perceptions actuelles et à l'avenir immédiat lui-même de se dessiner en partie dans le présent. La réalité n'apparaît plus alors à l'état statique dans sa manière d'être, elle s'affirme dynamiquement dans la continuité et la variabilité de sa tendance. Ce qu'il y avait d'immobile et de glacé dans notre perception se réchauffe et se met en mouvement. Tout s'anime autour de nous, tout se revivifie en nous. Un grand élan emporte les êtres et les choses. Par lui, nous nous sentons soulevés, entraînés, portés. Nous vivons davantage, et ce surcroît de vie amène avec lui la conviction que de graves énigmes philosophiques pourront se résoudre, ou même peut-être qu'elles ne doivent pas se poser. Étant né d'une vision figée du réel, et n'étant que la traduction en termes de pensée d'un certain affaiblissement artificiel de notre vitalité. Plus, en effet, nous nous habituons à penser et à percevoir toute chose sub specie durationis, plus nous nous enfonçons dans la durée réelle. Et plus nous nous y enfonçons, plus nous nous replaçons dans la direction du principe, pourtant transcendant, dont nous participons et dont l'éternité ne doit pas être une éternité d'immutabilité, mais une éternité de vie. Comment autrement pourrions-nous vivre et nous mouvoir en elle ? Inea vivimus et movemur et sumus.